Afrique, les infos à Washington.
Georges Guillon, Le Monde aujourd'hui, nous sommes ensemble pour 30 minutes d'information en continu. Bonjour, bienvenue. Le Conseil de sécurité a donné mardi son feu vert au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour nommer le Bulgare Nikolai Mladenov comme nouvel émissaire de l'ONU pour la Libye. La nomination de Nikolai Mladenov survient 10 mois après la démission du Libanais Hassam Salameh, officiellement pour des raisons de santé, mais qui ne cachait plus sa lassitude face aux violations par plusieurs membres de l'ONU, y compris au Conseil de sécurité, de leur propre résolution. Elle intervient aussi après 2 rejets de candidatures africaines par les États-Unis qui ont imposé à leurs partenaires une nouvelle structure de la hiérarchie onusienne en Libye avec un émissaire secondé par un coordonnateur de la petite mission déployée à Tripoli. Ce dernier poste, si l'on en croit des diplomates, va échoir à un Africain en guise de lot de consolation, alors que l'Afrique, qui martèle qu'il faut des solutions africaines à des problèmes africains, a réclamé en vain pendant des mois l'attribution de la fonction d'émissaire à un ou une Africaine. L'ONU est revenue sur sa possible stratégie de sortie de la République démocratique du Congo mardi, à quelques jours d'une décision du Conseil de sécurité sur l'avenir de sa mission présente depuis 20 ans au Congo. Le secrétaire général adjoint pour les opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a mis en avant la sécurité et la protection des civils, le renforcement de la présence de l'État dans l'est du pays où les Nations Unies concentrent désormais leurs forces. Ces critères fondamentaux seront soumis au Conseil de sécurité qui doit décider s'il y a lieu de diminuer graduellement la présence des Nations Unies et ensuite d'envisager une sortie. Le Conseil de sécurité doit se prononcer d'ici le 20 décembre sur le renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO. Le président malien Bandao a démenti les rumeurs qui le donnaient démissionnaire et invité les Maliens à se donner la main pour mener à bien la transition politique lancée après le putsch du 18 août. Il s'exprimait lors d'une rencontre avec la diaspora malienne lundi à Abidjan, en marge de l'investiture du président ivoirien Alassane Ouattara. Début décembre, Bandao avait mystérieusement disparu de la sphère publique durant plusieurs jours, suscitant des spéculations et une possible démission ou une contamination par le coronavirus. La transition de 18 mois doit paver le chemin, selon les promesses des militaires, à un retour des civils au pouvoir à l'issue d'élections en 2022. Les Libériens ont répondu oui aux propositions de leur président Georges Weah de réduire le mandat du chef de l'État et d'autoriser la double nationalité, selon les résultats partiels portant sur un tiers des régions du pays annoncées mardi. Dans le même temps, les électeurs ont infligé à l'ex-star du football mondial un sérieux revers lors des élections organisées le même jour pour renouveler la moitié des 30 sièges de sénateurs, selon de nouveaux résultats publiés mardi, confirmant les premières tendances. L'opposition enregistre une victoire hautement symbolique dans le comté de Montserrado, le plus peuplé du pays et qui comprend la capitale Monrovia. Ici aux États-Unis, le président élu des États-Unis, donc Joe Biden, a choisi Pete Buttigieg, un de ses anciens rivaux dans la primaire démocrate, pour diriger le département des transports dans sa future administration, selon des sources bien informées de sa décision. Ancien maire de South Bend, dans l'Indiana, âgé de 38 ans, Pete Buttigieg n'a jamais assumé de fonction fédérale. Et puis, Mitch McConnell, le chef de file de la majorité républicaine au Sénat américain, a adressé mardi ses félicitations à Joe Biden et Kamala Harris pour leur victoire à l'élection présidentielle, et cela au lendemain du vote des membres du collège électoral. Depuis le scrutin du 3 novembre, Mitch McConnell s'était abstenu de reconnaître la victoire du candidat démocrate à la Maison-Blanche sur le sortant Donald Trump, un résultat toujours contesté par ce dernier et par une partie du camp républicain. Le nouveau Congrès fédéral est convoqué le 6 janvier pour dépouiller les bulletins des grands électeurs du collège électoral et ratifier finalement la victoire de Joe Biden. On marque juste une pause dans quelques instants, la suite de ce journal. Je rappelle que nous sommes le mercredi 16 décembre 2020. À tout à l'heure pour la suite de cette session d'information.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Jean-Roger Billon, je rappelle que vous suivez VOA Afrique. Maintenez vos sièges pour la suite du journal. La suite de nos informations ce mercredi 16 décembre. Au Niger, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, le débat se cristallise autour de la candidature de Mohamed Bazoum, le candidat du parti au pouvoir. Plusieurs de ses adversaires émettent des doutes sur sa nationalité. Un général à la retraite, Salou Djibo, chef de la junte militaire de 2010, a même saisi la Cour constitutionnelle pour qu'elle clarifie la situation du candidat Bazoum. Les détails avec notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
C'est en sa qualité d'ancien chef d'État que le général Salou Djibo est intervenu dans ce débat sur la nationalité d'origine du candidat Mohamed Bazoum qui cristallise la campagne électorale en cours.
Les décisions rendues par la Cour jusqu'à ce jour n'ont pas permis d'établir la véracité de la nationalité d'origine du candidat Bazoum Mohamed. Au contraire, les questions sur la légalité de sa candidature se sont intensifiées et un fort soupçon est né qu'il existe une volonté politique manifeste d'imposer aux Nigériens un candidat et pourquoi pas un président de la République sans que tout doute soit levé sur les conditions d'éligibilité requises par la loi. Le malaise né de cette situation menace la stabilité des institutions et la paix sociale.
Salou Djibo demande au président Issoufou Mahamadou de convoquer le Conseil de la République sur la question pour laquelle sept autres candidats ont adressé ce mardi une requête à la Cour constitutionnelle. Seyni Oumarou, autre candidat, a lui, dans un communiqué distribué à la presse, dénoncé les agissements d'une Cour constitutionnelle manifestement partisane. Le candidat au cœur de cette polémique, Mohamed Bazoum, poursuit lui normalement sa campagne à l'intérieur du pays. Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, l'ancien candidat à la présidentielle Kouadio Konan Bertin, Dick Akabé, a été nommé ministre de la Réconciliation nationale, a annoncé hier le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Kouadio Konan Bertin, dissident du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a pour mission de faire avancer le processus de réconciliation nationale, difficile depuis la crise post-électorale de 2010-2011, qui a fait 3000 morts. Seul candidat de l'opposition à ne pas avoir boycotté le scrutin du 31 octobre, Kakabé est arrivé deuxième avec 1,99% des voix, derrière le président Alassane Ouattara réélu avec 94,27%. Lundi, lors de son discours d'investiture à un troisième mandat, Alassane Ouattara a annoncé la création d'un ministère de la réconciliation pour, dit-il, consolider davantage la cohésion nationale. Il a assuré que le premier ministre Ahmed Bakayoko va relancer en vue des législatives du premier trimestre 2021 les pourparlers sur la commission électorale indépendante, un des principaux points de friction avec l'opposition qui la juge inféodée au pouvoir. La période préélectorale a été marquée par des violences qui ont fait 85 morts.
Au Mali, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a suspendu les cours dans toutes les institutions d'enseignement supérieur pour faire face à la propagation du coronavirus. L'application de cette décision a commencé hier mardi 15 décembre et va s'étendre jusqu'au 4 janvier 2021. Les précisions de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
L'explosion des cas de maladie à coronavirus au Mali est la résultante du relâchement total par les citoyens des mesures barrières. Ces derniers temps, on constate qu'il y a eu des regroupements de masse un peu partout dans les pays. Il y a donc eu un relâchement. C'est pour cela que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, le professeur Amadou Keïta, a décidé la suspension des cours dans toutes les institutions d'enseignement supérieur du Mali. Cela du mardi 15 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021 en raison de la situation sanitaire liée à la maladie à coronavirus. En visitant lundi dernier l'Institut national de santé publique, le Premier ministre Mokhtar Wane s'est prononcé sur les tests de Covid qui sont en rupture au Mali.
Je suis venu précisément dire très clairement que le gouvernement veille à ce qu'il n'y ait aucune pénurie dans ce domaine. Et c'est heureux à cet égard de constater que le travail a été correctement fait aujourd'hui, qu'il se poursuit et que encore pour une dizaine de jours, le stock est disponible. Tchouni. Au moment où je vous parle, les commandes sont en cours de livraison.
À l'hôpital du Mali, il a fait un don d'une valeur de 80 millions de francs CFA qui comprend entre autres des moniteurs de surveillance, des chariots de soins et des matelas. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
C'est à présent l'heure de la Minute Écho avec John Lydon.
Afreximbank, Bank, l'African Export Import Bank, annonce avoir levé 520 millions de dollars destinés à financer l'aide aux pays africains frappés par la pandémie de COVID-19. Selon le Financial Afrique, le prêt a été dirigé par la banque japonaise MUFG, une filiale de Mitsubishi UFG Financial Group. L'opération a été couverte par l'agence gouvernementale japonaise d'assurance du commerce et des investissements. En République démocratique du Congo, au moins 7,5 millions de dollars sont attendus de l'adjudication des bons du Trésor de 3 mois d'échéance. Pour ce mois de décembre 2020, le règlement se fera jeudi 17 décembre 2020, selon une annonce du ministère des Finances. Sur le marché financier intérieur, le gouvernement congolais prévoit d'élever 30 millions de dollars. Les aides économiques tant attendues par des millions d'Américains et des petites entreprises pourraient enfin arriver. Des élus républicains et démocrates du Congrès ont présenté lundi une proposition commune et appelé leurs leaders à la faire adopter avant Noël. 908 milliards de dollars pourraient être débloqués. Mais cette offre doit encore faire l'objet d'un compromis entre Nancy Pelosi, chef des démocrates à la Chambre des représentants, et Mitch McConnell, leader de la majorité républicaine au Sénat. Une fois cet obstacle franchi, le texte doit être approuvé par le président sortant, Donald Trump.
Dans la page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. L'équipe nationale junior burkinabé s'est qualifiée pour la CAN de sa catégorie Mauritanie 2021, opposée en demi-finale aux Elefanto à Porto Novo au Bénin, où se jouent les qualifications de la zone IFOAB. Les Burkinabés se sont imposés 4-1. Ils retrouveront samedi le Ghana en finale. Ghanéens et Burkinabés sont les qualifiés de cette zone pour la CAN des moins de 20 ans. En République démocratique du Congo, le site de la Fédération congolaise de football association fait savoir que Jean-Florent Ibengué a été nommé sélectionneur des Léopards A'. Il conduira donc l'équipe à la 6e phase finale du championnat d'Afrique des Nations, prévue du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. L'année dernière, Florent Ibengué a démissionné à la tête des Léopards A. Auparavant, il a remporté le CHAN Rwanda 2016. L'actuel entraîneur de l'association sportive V-Club de Kinshasa sera assisté par les techniciens Pamphile Miayo et Daoula Lopembe. La RDC débutera la compétition le 17 janvier face au Congo dans un derby de l'Afrique centrale et jouera ensuite le Niger et la Libye. L'international camerounais Christian Bassokog, qui évolue au club chinois de Henan, le Congolais Cédric Bakambu du Beijing Guan et autres Africains jouant dans la Super League chinoise ne pourront plus toucher un salaire supérieur à 3 millions d'euros par an. La Fédération chinoise de football a annoncé qu'elle va plafonner à 3 millions d'euros annuels les salaires des joueurs étrangers dans les championnats nationaux. Cette règle s'appliquera dès le 1er janvier 2021 à tous les footballeurs étrangers, y compris ceux qui évoluent déjà en Chine. Le Brésilien Oscar du Shanghai SIPG est le joueur le mieux payé du championnat chinois avec 23,4 millions d'euros annuels, suivi de l'international congolais Cédric Bakambu du Beijing Guan, 19,5 millions d'euros. Basketball, la superstar des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo a affirmé sur Twitter avoir accepté un nouveau contrat, le plus gros de l'histoire, pour 5 ans de plus avec la franchise. « C'est ma maison, c'est ma ville », a déclaré le MVP des deux dernières saisons régulières de NBA. La chaîne de télévision américaine ESPN a dévoilé que le renouvellement de son contrat coûterait 228 millions de dollars aux Bucks. ESPN explique aussi que ce montant en fait le contrat le plus onéré de l'histoire de la NBA, devant celui de 206,8 millions de dollars signé par Russell Westbrook avec Oklahoma City en 2017. Le salaire annuel de cet enfant de migrant nigérian né à Athènes s'élèvera à 45,6 millions de dollars par an, soit plus que les 44,5 millions par an de la superstar des Lakers, LeBron James.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo. écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon, toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. En Guinée, le président Alpha Condé a prêté serment mardi à Conakry pour un mandat de 6 ans devant 11 chefs d'État africains et plusieurs délégations. Élu le 18 octobre dernier à l'issue d'une élection contestée par l'opposition, le président Condé entame un troisième mandat consécutif. Compte rendu avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
Cette investiture marque le début de la 4e République, conséquence du changement de constitution. Il faut oublier le passé qui divise au profit d'un avenir d'unité, a dit Alpha Condé ce mardi à Conakry. Des mots pour rassurer, mais certains comme Mamadou Diambadé, éditorialiste, n'y croient pas.
On ne gouverne pas avec des décibels, vaut mieux passer à l'acte, comme l'a dit Wole Soyinka. Le tigre n'a pas besoin de proclamer sa tigritude. Il bondit sur sa proie. On a besoin d'actes, on a besoin de gestes forts de la part du président, de gages. Il ne peut pas prôner la rupture en faisant enlever des opposants et en plein jour dans la capitale et dans d'autres provinces, les emprisonner. Il ne peut pas, comment dirais-je, prôner la rupture avec toutes ces tueries sans qu'il y ait la lumière.
Alpha Condé a dévoilé les objectifs de son nouveau mandat. Lutte contre la corruption, la promotion des jeunes et des femmes, entre autres. Des promesses diversement appréciées.
Et une opportunité pour lui de rentrer dans l'histoire en essayant de corriger naturellement toutes les insuffisances qu'on a connues dans sa gestion.
La rigueur administrative doit être de mise. Dans une gouvernance, il faut d'abord la rigueur. Moi, je pense que Alpha Condé est dans sa posture de président, il est dans sa posture de prôner la bonne gouvernance, mais jusque-là, il n'est pas engagé à finir avec la corruption.
Il y a la possibilité d'engager une véritable réconciliation nationale, il y a la possibilité d'engager donc un dialogue national, un débat national avec tous les acteurs politiques.
Plusieurs candidats à l'élection présidentielle du 18 octobre étaient présents à la cérémonie d'investiture. Le grand absent était le finaliste malheureux, Seydou Dalein Diallo, qui revendique toujours sa victoire. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Hey there, hello. VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
En République centrafricaine, la campagne électorale en vue des élections générales du 27 décembre prochain piétine à l'intérieur du pays. Plusieurs candidats aux législatives ont été agressés ou dépouillés de leur matériel de campagne par des hommes armés. Ces incidents relancent la question de la sécurisation des candidats. À Bangui pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Sans grande surprise, plusieurs candidats aux législatives viennent de faire le frais d'agression d'hommes armés à l'intérieur du pays. C'était d'ailleurs la crainte de nombreux candidats avant le lancement de la campagne électorale. Lundi, le véhicule d'Éric Gallo, candidat du MCU, parti du président Touadéra, a été emporté par des hommes armés avec tout son matériel de campagne dans la ville de Kagabandoro, au centre-nord. Le même jour, à Kabo, un candidat du parti CRPS de l'ancien Premier ministre Nicolas Tanguy a vu son véhicule 4x4 emporté par des hommes armés. Ce même lundi 14 décembre, Béatrice Émilie Epaille, candidate indépendante à Markunda dans l'Ouam, toujours dans le Nord, a été aussi victime de braquage. Son matériel de campagne a été également emporté. Pierrette Wanga, une autre candidate du MCU dans la localité d'Embré, dans le centre-nord, a indiqué que son équipe de campagne a été prise pour cible par des hommes armés.
L'incident, c'est que j'ai envoyé mon équipe de campagne sur le terrain. Cette équipe-là est composée du directeur de campagne gagnent avec 8 éléments qui sont partis, avec 4 motos et un pick-up. Ils sont bien arrivés là-bas, voilà qu'hier ils ont été visités par des assaillants qui ont emporté tout ce que j'amenais comme kit de campagne là-bas. Si j'étais là-bas, je devais même être tué.
La tension n'est pas que dans le nord ou le centre-nord. Dans le sud-est, un candidat du MCU a été poignardé à une 60aine de kilomètres de Bangassou. Il serait hospitalisé dans un état instable. À Bossangwa, capitale de la préfecture de l'Ouham, où s'est retranché l'ancien président François Bozizé depuis l'invalidation de sa candidature, la psychose gagne les esprits. Aucun candidat n'a encore osé y battre campagne. Même les fonctionnaires et agents de l'État quittent la ville. Le préfet Barthélémy Huilican appelle au calme.
C'est vrai que ces derniers temps, le climat qui a prévalu à Bossangwa est un climat quelque peu morose. Beaucoup de rumeurs circulaient par-ci par-là et ces rumeurs ont obligé tous les agents de l'État à quitter Bossangwa pour Bangui ou pour ailleurs. Mais je profiterai du micro que vous me tendez pour rassurer mes collaborateurs, rassurer tous les directeurs régionaux, tous les chefs de services préfectoraux, tous les enseignants du fondamental 1 et du fondamental 2 qui sont partis à Bangui ou ailleurs, de revenir parce que la situation sécuritaire à l'heure actuelle est relativement calme.
Ces multiples agressions relancent la question de la sécurisation des candidats par les forces nationales et de la MINUSCA. Pour Vladimir Monteiro, porte-parole de la mission de l'ONU en Centrafrique, il est impossible pour la mission de sécuriser chaque candidat.
C'est le gouvernement qui a ce plan intégré de sécurisation des élections et nous, on est là en appui. Est-ce que la MINUSCA fait son travail? La MINUSCA, elle fait son travail depuis le début. Elle continue de le faire sur le terrain. Nous ne sommes pas partout. Nous ne sommes pas derrière chaque candidat, mais nous intervenons avec les forces armées centrafricaines et les FSI quand il le faut pour protéger les candidats qui sont menacés.
De leur côté, ni le ministère de la Défense ni le département de la Sécurité ne se sont encore prononcés sur la sécurité des candidats. Alors que la campagne électorale sera close le 25 décembre, avec cette allure, les Centrafricains se demandent si réellement ces élections auront lieu le 27 décembre 2020. Frimansi Pila Bangui pour VOA Afrique.
La voix de l'Amérique, Bangui 101.7 FM.
Au Tchad, les droits des prisonniers en détention préventive sont violés quotidiennement selon un rapport de l'ACA Tchad, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, rendu public à N'Djamena après 2 ans d'enquête en milieu carcéral dans le cadre du projet Lutte contre la détention préventive abusive. Le point avec notre correspondant André Côte-Bajinga.
En novembre 2018, plus de 78% des personnes en prison étaient en attente de jugement dans les 3 prisons cibles, notamment Abéché, Mundu et N'Djamena, une situation qui viole les textes en vigueur.
Le code procédure pénale dit si une personne est poursuivie pour une infraction, cette personne doit être jugée dans un délai de 6 mois. Maximum. Pour les crimes, c'est dans un délai de 1 an renouvelable.
Maître Nojutolom Salomon, président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, section du Tchad, 2 ans après l'exécution de ce projet, il estime que la situation a nettement évolué, sauf qu'il reste beaucoup à faire en N'Djamena.
D'après nos chiffres, nous avions constaté que le nombre de personnes qui attendaient de juger a sensiblement baissé. À Béché, ils sont autour de 5%. À Mundu, c'est presque 0%. Mais le gros problème, c'est N'Djamena. N'Djamena compte 2 millions à peu près de population, mais nous n'avons que 7 juges d'instruction. Donc ça fait qu'il y a une certaine lenteur.
Le 6e substitut du procureur de la République de grande instance de N'Djamena, Abdraman Amatatim, évoque plusieurs facteurs pour justifier le nombre pléthorique de la population carcérale.
On est actuellement en période de Covid et le ministre de la Justice, M. Djoum Arabi, a donné des orientations à l'université, entre autres la suspension des audiences ordinaires pour éviter qu'il y ait de contamination. Seul le parquet fonctionne pour éviter qu'il y ait recrudescence de la violence. Et il y a d'autres facteurs également qui entrent en jeu. Il ne faut pas forcément toujours accuser les juges. Il y a des avocats qui jouent au dilatoire, qui demandent des records d'audience. Donc c'est un peu partagé.
Le procureur de la République de Mundu, au sud du Tchad, Brahim Ali Kola, évoque quant à lui le manque de fourgonnettes pour extraire les détenus, pour les amener à l'audience, puisque la maison d'arrêt est située à 17 km de la ville, et le dysfonctionnement au niveau de la chambre d'accusation.
La chambre d'accusation qui doit en réalité procéder éventuellement à la mise en accusation de ces personnes qui attendent, et aussi la chambre criminelle qui est prise en compte par le nouveau code de procédure pénale. Donc c'est ça qui permet jusqu'à là et ça fait qu'on a plus de gens qui attendent la session que cette chambre criminelle là pour être située sur leur sort. Mais en ce qui concerne nous au niveau du parquet d'essence, je crois au jour d'aujourd'hui nous sommes simplement à 45 personnes qui sont détenues préventivement.
Le procureur de la République d'Abéché, Hassan Djamous Hachim, a déclaré à VOA Afrique que les détenus de la maison d'arrêt d'Abéché, province du Wadaï, dans l'est du Tchad, sont en insécurité puisque les agents détachés pour assurer leur sécurité sont en sous-effectif.
Le ministre de la Justice avait pris un arrêté pour renforcer l'effectif de sécurité des gendarmes. Malheureusement, il y a une mésentente avec le garde nomade qui sont détachés. Et c'est là même la cause de certaines mutineries. Et nous avons aussi assisté à des séries d'évasions où nous avons mis en mouvement l'action publique contre ces complices. Ils ont été condamnés par le tribunal, mais ça continue.
Contacté plusieurs fois pour avoir la version du gouvernement, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Djimé Arabi, n'a pu répondre. André Koduma Djingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Direction l'Éthiopie, depuis l'offensive militaire lancée le 4 novembre dans la région du Tigré par le premier ministre Abiy Ahmed, 50 000 personnes ont fui les combats et des violences qui ravivent de profondes divisions communautaires. La majorité des réfugiés arrivent à Hamdayet, un village soudanais situé au bord d'une rivière qui sépare les deux pays. Reportage de Patricia Huyon dans la région.
Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à apparaître dès l'aube, leurs maigres possessions sur le dos, l'air hagard brûlé par le soleil.
J'ai marché pendant deux jours. C'était très fatigant, surtout pour mes 8 enfants. Nous avons eu des problèmes sur la route, on m'a volé mon argent. J'ai aussi vu des jeunes hommes être frappés, certains ont été arrêtés.
En un mois, 50 000 Éthiopiens, en grande majorité tigréens, ont fui des combats et des violences qui ravivent de profondes divisions communautaires. Genet Kassai, son fils de 2 ans sur les genoux, raconte comment 3 hommes en uniforme, armés, ont fait irruption chez elle.
Ils ont tué mon mari. Nous prenions un café à la maison quand ils sont arrivés. Ils l'ont emmené et l'ont tué. Il disait qu'il transportait de la nourriture pour les combattants du front de libération du peuple du Tigré.
Parmi les réfugiés, des paysans, des médecins, des étudiants, des ingénieurs, dont la vie a volé en éclats. Beaucoup sont traumatisés par ce qu'ils ont vécu, explique Jason Rizzo, coordinateur de projet pour Médecins Sans Frontières.
En général, ils sont arrivés fatigués, stressés. Donc il y a le côté santé mentale qui est assez grave. Et avec le temps et avec le fait qu'il semble que le conflit en Éthiopie va continuer, et donc ça avoir un impact sur le côté mental.
À Hamdayet, le centre de réception des réfugiés se situe à l'écart du village. Autour d'une grande tente blanche où les nouveaux arrivants font la queue, tout manque. Nourriture, ombre, abri, couverture pour la nuit. Hadas Gabrou a la 60aine, elle dort seule à même le sol, sous un drap tendu entre des morceaux de bois.
Voilà, c'est ici que je passe la nuit. La journée, il fait très chaud. Je tente de trouver un coin d'ombre. J'ai tout perdu. Ici, je n'ai plus de maison. Pas de jerrican pour aller chercher de l'eau. Pas d'huile, de pâte ou de farine pour cuisiner.
Le transport des réfugiés a commencé vers Umrakuba, un camp isolé et déjà surpeuplé, situé à 80 km de la frontière. Un signe que la crise humanitaire n'est pas passagère et l'espoir d'un prochain retour s'amenuise. De retour de Hamdayet, Patricia Huron pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montout de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Guillon, mise en onde de Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous.